Sauve-toi Jésus-Christ. Chère Jeanne, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de donner votre témoignage. Vous êtes passé par l'islam et spécialement dans le soufisme que vous avez quitté. Après combien d'années d'ailleurs ?
10 ans.
Après 10 ans. Alors j'aimerais que vous puissiez nous dire pourquoi vous êtes allé dans le soufisme, pourquoi vous en êtes sorti et pourquoi finalement vous avez décidé de devenir chrétienne et catholique.
C'est un grand sujet. Oui. Je vous remercie infiniment, monsieur l'abbé, de me recevoir aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi. Je vous vois régulièrement sur YouTube et puis bah, maintenant c'est moi qui figure. On va voir ça. Je tenais à partager ce petit témoignage, non pas pour me mettre en avant, mais simplement pour montrer ces petits moments de grâce que le Seigneur peut nous envoyer, qui peuvent sembler anodins, une petite chose, et qui peut totalement changer notre vie. Voilà, c'est fou de voir comme le Seigneur agit à travers chacun de nous, qu'importe d'où on vient, qu'importe où on est, il nous attrape au moment venu, lorsqu'on est prêt à le recevoir. Et si on le suit, et bah, ça peut aller bien loin. C'est une belle aventure que je suis en train de continuer. J'ai pas encore vu le bout, mais j'ai de plus en plus de grâce, de joie, de présence du Seigneur, de confiance également. Chaque instant est un petit miracle, même un grand miracle. On est en vie, on respire, on est en train de parler tous les deux. C'est déjà exceptionnel.
Exactement. On ne se rend pas compte de la chance que nous avons d'exister. On aurait pu ne pas exister.
Oui.
Pourquoi nous existons ? C'est quand même fabuleux. Donc, c'est chercher la raison pourquoi nous existons. Plutôt que de passer notre vie, comme le font la plupart des gens, sans se poser des questions. Les navires ne se posent pas de questions, n'est-ce pas ? Ils ne cherchent pas à savoir pourquoi ils existent, d'où ils viennent, où ils vont. Mais quand on ose s'affronter à ces questions existentielles, et qu'on découvre ce que vous avez découvert, alors tout devient beau et sain, tout devient heureux, n'est-ce pas ? Alors, vous allez donner ce témoignage pour tous ceux qui encore n'ont pas trouvé ce que vous avez trouvé.
Oui, puis je suis encore en chemin, hein,
oui.
Bien sûr. Donc, pour petit rappel, donc j'ai été baptisée, j'ai eu une éducation catholique, j'ai reçu les sacrements, j'allais à la messe régulièrement étant petite, j'avais une très grande foi, je passais beaucoup de temps à prier Jésus, la Vierge Marie, j'étais accompagnée de mon ange gardien, des saints, de Sainte Jeanne d'Arc, qui est ma sainte patronne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Plutôt la première question, pourquoi ai-je quitté la religion, Jésus, mon enfance finalement ? Oui. Je pense qu'on est quand même dans une société très difficile, très peu propice à nous faire avancer dans la foi. On a plutôt tendance à nous faire descendre. Il n'y a qu'à voir le système éducatif actuel, tout ce qu'on nous enseigne vise à nous faire tomber plutôt qu'à nous élever. Ouais. Voilà, rien qu'un simple exemple, la notion du beau. Alors la beauté, c'est ce qui élève l'âme, c'est ce qui nous élève spirituellement, et maintenant on nous enseigne, il n'y a qu'à faire des tours dans les expositions d'art contemporain, apprécier des choses complètement absurdes,
non,
qui n'ont plus rien de beau.
Pour eux, il n'y a pas de beauté dans l'art contemporain, c'est le spectateur qui crée lui-même la beauté.
Donc on nous fait perdre la notion, les notions primaires, principales, qui sont dans notre essence, la recherche du beau, la recherche du pur, la recherche du vrai, de toutes ces belles valeurs qui sont complètement détournées dans notre monde actuel. Je suis née d'ailleurs dans cette période où j'ai reçu également un enseignement qui a tendance à complètement déconstruire ce que le Seigneur nous donne à tous de façon naturelle. Enfin, voir tout et son opposé, comment dire, à tout inverser. C'est la tactique du diable, finalement. Ouais. À mettre le haut en bas, le bas en haut. Ouais. Puis il n'y a plus de limite maintenant. Il n'y a qu'à voir. Maintenant, les hommes peuvent devenir des femmes, les hommes, des hommes, les ci, les ça. Enfin, bref, j'ai grandi dans ce début de société qui part un petit peu dans tous les sens. Si bien qu'au moment de l'adolescence et lorsque j'ai fait mes études à l'université, je perdais un petit peu tous mes repères.
Oui.
Les belles valeurs chrétiennes, bah, je ne les voyais plus tellement. Tout ce qui peut être la charité, le respect de la famille...
Il n'y avait pas de bonnerie à l'université ?
Non, puis en plus dans mes études, avec les professeurs qui nous guidaient, franchement, c'était plus à la mode. J'essayais de suivre un petit peu le mouvement.
Et vous n'aviez pas dans votre entourage immédiat, soit familial, soit amical, une personne de foi qui a pu vous aider à justement rester fidèle à la foi, j'imagine?
Oh, pas tellement, parce qu'en étant étudiante, j'ai ma mère qui est catholique, mais bon, j'ai pris un petit peu de liberté.
Donc personne ne s'est inquiété de ça?
Non.
Oui, c'est ça.
On laisse les jeunes vivre, il faut quitter leurs expériences, et laisser-les vivre, et laisser-les comme si j'allais tout savoir par moi-même. Donc, dans cette période où j'étais vraiment dans un environnement très athée, en perte de repère, je ne retrouvais plus les valeurs, les belles valeurs chrétiennes qu'on m'avait enseignées, j'étais quand même en quête de spiritualité. Voilà, il y avait toutes ces théories purement matérialistes ne me convenaient pas du tout. Mon âme, mon corps, mon esprit, tout me disait qu'il y a quelque chose de surnaturel. On ne peut pas s'arrêter uniquement à des explications scientifiques. Il y a autre chose, il y a autre chose qu'on ne voit pas.
Ouais.
On ne peut pas penser autrement, je pense. Je pense que même les athées ne sont pas des vrais athées. Ouais. Ils ont beau dire non dans leur tête, mais leur cœur dit oui, c'est pas possible autrement. Enfin, on a été créé pour ça.
Ouais.
Et donc, c'est dans cette période où je me posais tout un tas de questions, que, et en quête de spiritualité, que j'ai rencontré des soufis. Donc, je ne comprenais pas très bien ce que ça signifiait au début, mais j'étais touchée par un beau discours spirituel, par une grande sincérité et une recherche de vérité chez ces personnes. Donc, tout l'enseignement soufi, pour moi, est tourné vers la recherche de soi.
De soi.
Vers la recherche aussi de Dieu en soi. Oui, c'est vrai que ça touche un petit peu la gnose. Hein. C'est ce que j'ai découvert
bien
après,
sûr,
d'ailleurs.
Bien sûr.
Sur le moment, je ne comprenais pas.
Mais c'était présenté comme ça ou bien c'était la recherche de Dieu, d'Allah?
C'était présenté, un simple exemple, quand on parle du djihad, les musulmans, c'est aller combattre les incroyants et tout ça.
Oui.
Pour eux, le djihad, c'est le combat intérieur. C'est avant tout la lutte contre l'ego. Donc une fois qu'on s'est purifié de tout ce qu'on a de mal en soi, là, on peut commencer à s'occuper de l'extérieur. Mais comme on n'en a jamais fini avec soi-même, qu'on commence par faire le ménage chez soi.
J'ai appris que les soufis, vous me corrigerez si je me trompe, ne remettent en cause aucune des bases de l'islam classique sunnite, c'est-à-dire que pour eux le djihad, qui est donc le combat armé contre les mécréants, comme vous le disiez, ils ne le révoquent pas du tout. Et on ne peut pas être soufi sans être un vrai musulman, c'est-à-dire sans accepter et cautionner toutes les bases de l'islam en fait.
Oui, mais en fait elles sont tournées à un niveau de sagesse supérieur, on va dire. Disons que c'est plus tourné sur le travail qu'on fait sur soi pour s'améliorer. Et il y a quand même des grands soufis comme Ibn Arabi, Jalaluddin Rumi, Rabah d'Alaouia, une femme également, qui nous disent que ce qu'on recherche, enfin eux, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est quand même la présence de Dieu. On est quand même bien loin du paradis des musulmans qui veulent toute leur houerie, les attend et tout ça. Là, on ne recherche même plus ni le paradis ni l'enfer. On ne veut être qu'en Dieu, par Dieu, pour Dieu, le servir, le voir, l'aimer. Donc là, ça rejoint quand même la vision chrétienne du paradis, qui est la vision béatifique.
Oui.
Et puis, ça m'a pris du temps pour comprendre un petit peu tout ça, comprendre ce qui m'avait attiré. Et puis après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte à quel point le soufisme est inspiré de la mystique chrétienne. Et finalement, mais ça m'a pris du temps, je me suis rendu compte que ce qui m'attirait chez ces gens, c'était les valeurs chrétiennes oubliées dans notre Europe, déchristianisées. Voilà, j'ai eu des exemples de charité, d'accueil, de générosité, de respect des personnes plus âgées. J'aimais beaucoup quand on embrassait la main des personnes plus âgées. Il y avait tout un... les bonnes manières, la façon de se tenir à table, tout ça, toutes ces choses. Maintenant, on est là, on se croit tout permis, machin.
et quand même une certaine... voilà, chacun était à sa place, dans sa position, respectait les autres. Enfin bon, j'avais cette vision assez belle des personnes que j'ai rencontrées. Et là, on peut quand même différencier également les qualités humaines de la théorie, de la religion. Donc c'était quand même des personnes avec de très grandes qualités humaines. Et je les remercie d'ailleurs, parce que j'ai quand même passé 3 ans à Chypre turc, où je vivais auprès d'un maître soufi, et qui m'a accueilli, on aurait pu dire qu'il m'avait adopté. Il m'a ouvert sa petite maison de campagne, toute simple. Dans cette petite maison, on servait la soupe à tous ceux qui voulaient. Les portes étaient ouvertes, c'était tout petit, mais il y avait des gens qui venaient du monde entier, de toute confession. Certains le voyaient comme un guérisseur, d'autres voulaient simplement le petit paysan du coin manger un petit coup et discuter. D'autres recherchaient des enseignements, d'autres ne savaient pas trop pourquoi, mais ils étaient là. Donc c'était assez joyeux, cette ambiance. Et ça pourrait nous rappeler un petit peu les premières communautés chrétiennes ouvertes au monde, où on ne nous demande pas qui on est, d'où on est, voilà, de quel niveau social, quel est notre chiffre sur le compte bancaire et tout ça. On nous accueille, venez manger un petit peu, venez discuter, et voilà. Donc j'ai vécu dans ce contexte-là, et je garde quand même une grande reconnaissance pour ces personnes, pour leur qualité humaine. Qui m'ont vraiment très bien reçu.
Pourquoi est-ce que vous avez fait des recherches, ma chère Jeanne? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas accepté le discours que certainement on a dû vous servir, à savoir que tout venait de l'islam? Et pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de, quelque part, peut-être de vérifier ce qui vous avait été donné?
Déjà, comme on a dit, tout ce qu'on connaît de l'islam était quand même interprété d'une façon spirituelle. Donc, ce qui me faisait l'accepter beaucoup mieux.
Oui.
Mais, donc, je vous ai présenté une vision presque idéale des soufis, accueillants, généreux, et pour qui j'ai toujours une grande reconnaissance et beaucoup d'amitié pour certaines personnes. Mais il y a quand même un mais. Le soufisme reste quand même indissociable de l'islam, et l'islam reste l'islam.
Oui.
Et il y a des choses qui ne vont pas dans l'islam. Voilà, ça, on va dire un exemple tout bête. Pourquoi est-ce qu'il s'entête à dire que Jésus n'est pas mort sur la croix? D'un point de vue même d'un enfant, ça n'a pas de sens. Parce qu'à partir du moment où on accepte que Jésus a été incarné, qu'il est né, qu'il a pris corps de chair, d'esprit, qu'il a souffert dans son corps, qu'il a eu faim, qu'il a mangé, qu'il a bu, qui même dans ses souffrances spirituelles, qu'il a été humilié, qu'il a été rejeté. On accepte toute sa vie, et par contre, on n'accepte pas qu'il est mort.
Et en plus, on accepte de dire dans le Coran que les Juifs ont persécuté les prophètes.
Oui.
Donc si Jésus est un prophète comme les autres, d'après le Coran, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ce qu'il ait le même sort que les autres prophètes?
Et d'ailleurs, même les Juifs qui ont persécuté Jésus reconnaissent quand même qu'il a été très crucifié.
Et vous avez parlé de ça avec les soufis?
Je leur en parle maintenant, du coup. Je suis sûre qu'ils vont m'écouter. Mais oui, je leur ai fait part de ma conversion par la suite, mais il y a certains sujets qui... Voilà, donc j'en profite maintenant.
Et j'avais une question encore, s'il vous plaît. Donc vous qui avez été catholique, baptisé, qui avez pratiqué avec dévotion, avec ferveur, avec sincérité, le fait que l'islam vienne après le christianisme, et donc disent qu'il est nécessairement supérieur, puisqu'il est postérieur... Vous avez accepté ça facilement?
Comme je vous dis, je me suis laissée attirer par le discours spirituel avant tout. Un discours universel, on va dire, où on n'était pas en train de confronter l'islam au christianisme. On parlait plus de... quête de Dieu, de recherche de vérité. Donc je ne me posais pas tellement la question de cette période où déjà tout ce milieu athée dans lequel j'étais universitaire m'avait quand même pas mal détourné de l'église. Donc j'étais déjà, je regardais déjà ailleurs, j'étais déjà bien perdue finalement.
Oui.
oublié, je ne sais pas, mais quand on étudie Nietzsche et compagnie, on a un peu la tête toute retournée, on ne sait plus trop où on
est. Vous avez fait des études de philosophie ?
Bah ça, c'était en terminale. Après, j'ai fait des études d'histoire, d'ethnologie, mais bon, c'est à peu près toujours les mêmes techniques. Et donc, je voulais quand même revenir sur cette histoire. Voilà, un exemple dans l'islam qui est quand même très choquant. On refuse que Jésus soit mort sur la croix, alors qu'on accepte qu'il est né, qu'il a souffert, qu'il a vécu, qu'il vient d'une mère, que tout ça. Et pourquoi ? Mais en fait, c'est très grave. C'est parce qu'on refuse la rédemption. Amen. On refuse que Jésus est le sauveur.
Amen.
Et que sans lui, on ne peut pas... On ne peut pas être sauvé. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ça, ça m'est venu quand même. Les soufis, toute la journée, ils disent « Astaghfirullah ». Ils demandent pardon au Seigneur, ils demandent pardon, ils demandent pardon. Mais ils pensent avoir leur salut par eux-mêmes, tout seuls. En faisant des exercices spirituels, en se purifiant, en ce qui sont très beaux, c'est des très beaux exercices. Mais il manque Jésus quand même dans tout ça. Jésus qui est venu, qui est né, qui a vécu, qui a souffert, qui a été humilié pour nous, qui est mort sur la croix pour le salut de nos âmes.
Et ressuscité.
Et ressuscité. Donc ils acceptent quand même, pour eux, je crois que leur idée, c'est que Jésus est monté directement au ciel.
Ça.
Donc oui, il est monté au moment de l'ascension, mais ils ont loupé une étape quand même.
Ouais.
C'est qu'il est mort avant.
Ouais, ouais.
Et il est mort pour nous, et pourquoi ça les choque autant? Parce que peut-être qu'il nous rappelle aussi notre propre condition humaine, que nous-mêmes on va mourir, que nous-mêmes on est pécheurs, parce que c'est à cause de nous qu'il est là crucifié.
Amen.
Et donc ils ont décidé de...
Ouais.
D'enlever ce moment-là, donc qui est tout la base de notre foi chrétienne.
Oui. Donc ils trompent en particulier les chrétiens en faisant croire que Jésus est mort, que donc leurs péchés sont expiés. Et ça, pendant 7 siècles, il va attendre que tout se damne à cause de lui.
Oui, donc ça ne tient pas debout cette histoire. Donc Jésus serait un imposteur et...
Et Allah surtout, qui fait croire aux gens que Jésus est mort alors que c'était un sosie. Quel intérêt pour les chrétiens de croire que c'était Jésus qui était mort sur la croix, si c'était pas lui? Pourquoi est-ce qu'Allah fait ça? Ça n'a pas de sens.
Oui. Donc, refus de la mort du Christ, refus de la rédemption, refus qu'il est notre sauveur, et refus de la résurrection aussi. Alors, où on va sans ça? On va pas très loin.
Voilà. Et donc, peut-être, en fait, l'orgueil humain est davantage flatté, évidemment, dans une spiritualité où le salut, finalement, je me le donne à moi-même. Grâce à mes prières, grâce à ma piété, finalement, je n'ai pas besoin de Dieu, que je me débrouille très bien tout seul. Je n'ai pas besoin que Dieu me sauve, je me sauve tout seul par ma piété. C'est le principe de la gnose, n'est-ce pas? La connaissance me permet d'arriver au paradis, je n'ai pas besoin d'être sauvé.
C'est ça, c'est ce que j'ai fini par comprendre. C'est moi et mon Dieu, donc il y a quand même une notion
d'amour. Qu'est-ce qui t'a amené à croire ça? À comprendre ça?
Et bah déjà, il a fallu que je quitte le soufisme, donc il y a quand même eu un événement très fort, un événement surnaturel. Donc j'ai eu un songe, et j'ai vu en songe un homme, un moine, que je ne connaissais de nulle part, qui m'a regardé avec des yeux pleins d'amour. J'ai compris après qu'à travers son regard, je voyais le regard de Jésus, je retrouvais le Jésus de mon enfance. Il m'a tellement touchée que je me suis réveillée les larmes aux yeux. Cet homme, il avait l'air de me connaître depuis toujours. Il était plus que mon père, il était plus que tout. Incompréhensible. J'étais chamboulée. Bref, ça s'est arrêté là. Je me suis rendormie. Et le lendemain, je sais plus ce que je trafique sur Internet. Je fais des recherches. Voilà. Et je tombe sur une petite photo. Je clique par hasard. Et puis je revois, et puis je retrouve l'homme que j'ai vu en rêve.
Oh,
et je me dis, mais c'est qui celui-là?
Incroyable.
Et il y avait écrit un petit en dessous, Padre Pio.
Celui-là, là?
Oui,
ah, ouais, d'accord.
Cet homme-là. Eh bien, il se trouve qu'à cette période, j'étais encore totalement soufie. L'église, c'était pas du tout à la mode. Je n'avais jamais entendu parler de cet homme-là. Je ne connaissais rien du tout.
Impressionnant. Vous êtes miraculé par Padre Pio, si je comprends bien.
Oui, sans lui, je ne serais pas là, vraiment.
Ah oui.
Vraiment. Et après, ça a été assez vite. Quelques jours plus tard, je me retrouvais à San Giovanni Rotondo et je ne comprenais pas très bien ce qui m'arrivait.
De Chypre, vous êtes allé comme ça?
Non, en fait, j'étais revenue à Paris entre-temps. Okay. Pardon, je ne voulais pas raconter tout le chemin de vie. Donc, j'ai passé 3 ans à Chypre, revenue à Paris.
D'accord.
Et une attirante comme ça, il fallait que j'aille voir. Et j'ai assisté à une première messe en italien, je ne comprenais pas grand-chose. Les choses se sont faites petit à petit, je ressentais une attirance et puis en même temps c'est compliqué. Je peux comprendre le point de vue des musulmans parce qu'il y a quand même toute une communauté qui nous retient et qui nous dit vous revenez chez les koufars, les incroyants, les tout ça. C'était encore un petit peu compliqué. Mais mon cœur, j'écoute mon cœur. Voilà, il me faisait rentrer de plus en plus souvent dans les églises, remettre des cierges, prier, tout ça, jusqu'à un moment où je me suis dit, hop, j'étais voir un prêtre, je lui ai raconté mon histoire, je me suis confessée, ça a duré 1 heure, je pleurais, il n'arrêtait pas de me donner des Kleenex. Et là, je crois que c'était bon.
Ah oui.
Il a quand même fallu que je fasse des gestes concrets, donc j'ai prévenu toute cette communauté soufie que je connaissais, que Padre Pio m'avait appelé, il fallait que je revienne au Seigneur, que... Voilà.
D'accord. Bah, c'est merveilleux.
Oui.
Merci Padre Pio.
Bah écoutez, plus c'est que beaucoup. Merci, ah, oui. Ça n'a pas été forcément facile, parce que ça... Il y a dû y avoir une rupture,
bien sûr.
Un déménagement, des périodes de galère par la suite. Mais c'est pas grave, j'avais quelque chose qui m'animait, oui. Il fallait que j'aille de l'avant.
Est-ce que vous avez des insatisfactions dans votre vie de soufi?
Pas spécialement, mais je me posais des questions. Il y avait beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas concernant l'islam pur et dur, qu'on avait beau passer en second plan, mais bon, qui était quand même là, quoi. Ça faisait un peu la tâche au milieu du tableau. On nous présente une vision idéale, magnifique des choses. On recherche la présence du Seigneur, la vérité, la beauté, tout ça.
Oui.
Puis il y a quand même des trucs dans la vie bien concrètes de tous les jours,
oui,
qui ne vont pas.
Par exemple?
Et bah la polygamie, déjà.
Ah oui, comment en tant que femme, comment vous avez pu accepter pendant 10 ans de vivre dans une prétendue religion qui légalise la polygamie?
Bah parce qu'elle n'était pas dans mon milieu.
Oui, mais...
Mais je savais que ça existait, que c'était permis, donc ça me dérangeait.
Mahomet reste le modèle des musulmans,
et oui,
y compris pour les soufis, j'imagine.
Oui.
Et donc lui, comme vous savez, il avait droit à autant de femmes qu'il voulait,
oui,
sans compter les concubines et les esclaves sexuels.
Oui.
Il était un trafiquant d'esclaves.
L'esclavagisme en plus.
Oui.
Alors évidemment que c'était plus d'actualité. Mais c'était... Alors c'était des choses, je me disais, bon, je comprends pas, je dois pas avoir la sagesse pour ça pour le moment.
C'est ça.
C'est ça.
Donc ça vous
amène
à...
On mettait ça de côté.
Ah oui, d'accord.
Mais à force de voyager, et puis je me suis aussi intéressée à d'autres mouvements spirituels, tout ça, j'étais en Inde, j'étais en Malaisie, j'étais en Amérique du Sud, en Afrique. Je me suis rendu compte, et il m'a fallu pas mal de temps, qu'il y a uniquement les valeurs chrétiennes qui soudent la famille, la société.
Universel.
Voilà, sinon ça part dans tous les sens.
Ouais.
Que ça soit la polygamie, que ça soit
la répudiation,
les petites filles qu'on jette dans le fleuve jaune chez les religions soi-disant très zen, tout ça.
Ouais.
Faut aussi revenir, voilà, j'étais un peu trop dans le discours spirituel, mais faut revenir aussi au côté bien terre à terre. Voilà, comment vous vivez, comment ça se passe. Ouais. Et là, on se dit que. Ça va pas.
C'est ça. Parce que chez nous, alors malheureusement, l'actualité montre que trop que les chrétiens ne sont pas tous des saints, y compris les prêtres, avec tous les scandales qu'il peut y avoir. Mais une différence, c'est que nous ne justifions pas nos péchés. Nous savons dire, ça c'est un péché. Et quand la même chose est faite, par exemple, dans l'islam, on trouve le moyen de le justifier au motif que Mahomet l'a fait. Et alors, si Mahomet l'a fait, ça devient légal. Je pense à la pédophilie, par exemple, quand Mahomet a épousé Aïcha à l'âge de 6 ans, il a défloré à l'âge de 9 ans. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pour ça que dans les pays musulmans, que ce soit au Yémen, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs, l'âge légal du mariage, ça commence à 9 ans. Pourquoi? Parce que Mahomet a fait ça. Donc, une chose est donc de pécher. Et autre chose, de trouver à justifier son péché. Ce qui le compte, c'est le péché au carré, quoi. Quelque part, on ne peut plus sortir de là. Si ça devient légal, je n'ai pas de raison d'y renoncer. Donc c'est une grande différence, effectivement, qu'on peut voir apparaître dans le monde entier quand on compare les différents systèmes d'interprétation et de justification des sociétés, entre une société qui trouve le moyen de présenter quelque chose qui peut être un idéal pour beaucoup hors de portée, mais qui pourtant, nous savons, est praticable parce que nous recevons la grâce du Christ avec le sacrement, et autre chose, des sociétés où non seulement il n'y a pas cet idéal qui est proposé, mais en plus où on justifie un état de misère humaine lamentable, déplorable, affreuse.
Oui, c'est sûr, la luxure, tous ces péchés condamnés par l'Église sont tout à fait permis et même recommandés.
Oui, exactement, la violence, le parjure, du moment où tout un couffard, tout est permis. Oui. On voit la sagesse d'Allah, n'est-ce pas, qui demande de couper la main d'un voleur. Et j'ai lu l'histoire de cette pauvre servante en Arabie Saoudite, dont la maîtresse l'a accusée d'avoir volé quelque chose dans la maison. Et donc, elle a la main coupée, cette pauvre femme, n'est-ce pas, parce qu'elle n'a aucun droit, de toute façon, voilà. Et puis, quelques temps après, la propriétaire a retrouvé ce qu'elle avait déclaré être volé. Mais la main n'a pas repoussé pour autant. Et donc, on voit la sagesse d'Allah. On présente ça comme étant la dernière révélation.
Oui. Et puis, ce qui ne va pas tout court, c'est que qui peut venir après notre Seigneur Jésus-Christ ?
Amen.
Et là, je rajoute d'ailleurs un petit quelque chose sur lequel reviennent souvent les musulmans. Je ne sais plus où Jésus, le Seigneur nous parle du paraclet qui va venir après.
Oui.
Alors, ils se sont entêtés à dire
oui.
que c'est le prophète.
Voilà.
Mais... c'est simplement l'Esprit Saint.
Amen.
Lui va nous a quittés physiquement,
oui.
mais il a laissé son esprit, ce qui nous permet de tenir le coup,
oui.
ce qui nous permet de rester en sa présence quand
Amen.
On le prie,
Amen.
Ce qui nous permet de recevoir ses grâces, ses inspirations. C'est juste ça.
C'est de vivre en communion avec lui,
oui.
qui est au ciel, mais l'Esprit nous unissant à lui, qu'il soit au ciel et nous sur terre, ça ne nous empêche pas d'être en communion, de faire qu'un.
Alors ça, il faudrait le redire, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris.
Oui, ouais. C'est vrai qu'il y a une ignorance crasse, c'est terrible. Pauvres gens qui ignorent leur sauveur.
Oui, donc voilà, mais je me suis quand même posé des questions, parce que ces personnes, je pense, sont de grande qualité,
ouais.
sont en quête sincère de vérité, et je me dis qu'en continuant leur chemin... je prie de tout mon cœur qu'elle revienne à notre Seigneur Jésus. Elle
Amen.
Cherche la lumière, elle cherche la vie, elle cherche la vérité.
C'est qu'elle
on arrive à Jésus.
C'est ça.
Ça ne peut pas
c'est
être
ça.
Autrement.
C'est ça, absolument. J'espère qu'ils vont pouvoir entendre la parole du Christ et voir que Jésus n'est pas un prophète comme les autres.
Oui.
Il est seul le Messie, même le Coran le dit, il est le Messie. Ça veut dire quoi le Messie ? Ben, demandons aux Juifs qui ne sont pas chrétiens. C'est le sauveur du monde. Donc si Jésus est le sauveur du monde, si même le Coran le dit... pourquoi aller chercher autre chose ?
Oui, donc j'aimerais leur dire, suivez vraiment, ils attendent un prophète Issa, mais...
c'est ça.
Suivez vraiment notre Seigneur Jésus, et vous verrez que Issa, c'est autre chose qu'un simple prophète, et que c'est pas Issa, c'est
ouais.
Jésus,
Amen.
Jésus sauveur.
Amen.
Et qu'on ne peut pas être sauvé sans passer par lui.
Amen. Est-ce que vous avez reçu des pressions ou des menaces quand vous avez voulu quitter ?
Oh, non, parce que je... quand ça, on a simplement coupé
D'accord.
les relations
pour
certaines personnes qui ne pouvaient pas comprendre, et voilà. Puis il y a quand même des liens d'amitié qui sont restés.
Ah oui ?
Oui. Et je prie beaucoup pour toutes ces personnes-là, et...
D'accord, donc c'est-à-dire que ces gens avec qui vous êtes restés en relation considèrent que vous avez votre chemin comme ils ont le leur. Et peu importe finalement le chemin, parce que tous les chemins mènent à Rome, c'est ça ?
Un petit peu. Alors il y a ce discours un petit peu trop universel aussi, où là on rentre un peu dans la gnose dont vous parliez, d'universalisme, oui c'est ça, de finalement toutes les religions sont bonnes, enfin ça, c'est la grande mode maintenant,
ouais.
on ne parle que de ça,
ouais.
c'est bon, on est tous frères,
ouais.
On est tous citoyens du monde,
enfin
finalement. Maintenant éco-citoyens, parce que on en revient au culte de la terre,
c'est
cet écologisme.
C'est ça, au paganisme, ouais. Mais le sacrifice humain, d'ailleurs, on y arrive, n'est-ce pas? Il faut plutôt la mort des pauvres gens qui n'auront pas les moyens de vivre, plutôt que d'abîmer la terre, n'est-ce pas?
Oui, et puis ou sinon ne pas faire de bébé pour polluer la terre, par exemple.
Voilà, oui.
Voilà. Donc, oui, il y a cette tendance-là universelle et qui finalement mélange...
Pluraliste, on peut dire, pluraliste.
Oui.
Oui. Donc, ils ont
mais, ça, mais quand on approfondit vraiment les choses, non, je suis désolée, il y a des choses qui ne vont pas. Ouais. Il n'y a qu'une religion qui est bonne.
Amen. Amen. Qu'une seule vraie religion, comme il n'y a qu'un seul vrai Dieu. On ne voit pas pourquoi Dieu, contrairement à ce que notre pape, n'est-ce pas, l'a écrit à Abu Dhabi... On ne voit pas, s'il n'y a qu'un seul Dieu, que Dieu passe plusieurs religions.
Oui.
Quel est l'intérêt, quoi? Alors que Jésus a dit, Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. La volonté de Dieu, qui est un, c'est que nous soyons tous un. Parce que l'amour fait que ceux qui s'aiment ne font qu'un. Alors Dieu ne peut pas vouloir la diversité des religions. C'est un contresens.
Oui. Après, il nous prend aussi tous là où on est. Donc, je suis consciente... que pour un berbère dans l'Atlas qui est musulman depuis des générations, c'est pas forcément évident. Pour un indien au fin fond de l'Amérique du Sud qui restait aussi avec ses traditions ancestrales, c'est pas forcément évident.
Bien sûr, bien sûr.
Mais le Seigneur vient quand même frapper à la porte de chacun et puis nous donner des grâces et puis au moins des grâces naturelles si on n'a pas la possibilité de rencontrer un prêtre.
Ouais.
Voilà, mais petit à petit, il nous dirige et il nous éclaire aussi. Je pense qu'à notre époque où on a toutes les informations, on ne peut plus être tout seul, isolé sur son île, avec ses petites croyances. On est forcé de revenir à la vérité réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, pas seulement des inspirations divines qui nous viennent.
Alors, vous avez répondu. Dieu est venu vous chercher à travers ce rêve, c'est magnifique. Et je pense qu'il le fait tôt ou tard à chacun d'entre nous. Il donne comme ça le moyen pour chacun de s'éveiller à sa réalité. Et puis, soit on dit, je rêve, c'est qu'un rêve, ou bien on se dit, mais peut-être qu'il y a autre chose. Et on accepte de s'ouvrir à autre chose.
À partir du moment où on croit au monde invisible, on croit à l'intercession des saints, ils peuvent intervenir d'une façon ou d'une autre. Ça peut être de façon tout à fait dissimulée, tiens, par hasard, on rencontre telle personne, comme ça, voilà.
Oui.
Et pourquoi pas à travers un rêve où justement la conscience est un petit peu laissée de côté, où on est plus réceptif justement à autre chose. Et puis, c'était plus qu'un rêve, c'est un songe. C'est quand vraiment quelqu'un intervient et se montre tel qu'il est réellement.
Simblare la benedizione del Signore su di voi, su tutti coloro che vi stanno a cuore, sulla vostra famiglia, ma in modo speciale, sui poveri sofferenti e sui gentili. In nome del Padre, del Signore, dello Spirito del Santo, che se sia.
Ça arrive assez souvent dans l'islam d'ailleurs. Il y a beaucoup de convertis venus de l'islam qui l'ont été grâce justement à un songe.
Oui.
Parce que Jésus n'a pas d'autre moyen de venir les toucher, quoi. La Bible est interdite, évangéliser c'est interdit. Jésus n'a pas d'autre moyen souvent de toucher les âmes que par des songes.
Oui, il a fallu que la conscience formatée du musulman soit un petit peu en mode sommeil pour qu'il soit touché par le cœur de cette manière.
Oui.
En effet, c'est intéressant. Oui.
Je connais un imam, Mario Joseph. Il s'appelait Souleyman avant, en Inde, et qui donc était imam, un jeune imam, et qui a quitté l'islam, qui est devenu catholique, uniquement en s'intéressant au personnage de Jésus dans le Coran. Et il s'est rendu compte que Jésus était tout à fait différent, y compris de Mahomet, mais de n'importe quel autre personnage, pour autant qu'il y ait des figures assez bien définies dans le Coran, en voyant que Jésus, on disait qu'il était la vérité, pas Mahomet, qu'il était le Messie, pas Mahomet, qu'il était la parole de Dieu, pas Mahomet, qu'il était sans péché, par Mahomet, qu'il était né d'une vierge, par Mahomet, qu'il faisait des miracles, par Mahomet, qu'il est au paradis, par Mahomet, qu'il reviendra pour le jugement. Quand il a vu ça, il s'est dit, mais c'est lui qu'il faut suivre, quoi.
Oui.
Donc, les gens, comme vous disiez, qui cherchent la vérité, ou ils sont sincères, et à un moment donné, ils vont se rendre compte que l'islam ne tourne pas rond, ou alors ils préfèrent, tant pis, plaire au monde, plaire à leurs parents, à la communauté, pas avoir d'histoire. Mais ça, Jésus nous a bien dit qu'on ne peut pas se sauver sans accepter de porter la croix à sa suite chaque jour. C'est-à-dire sans rencontrer la contradiction et être prêt à souffrir l'hostilité du monde entier. Notre âme vaut plus que ça. Donc si on ne comprend pas que notre âme vaut plus que le monde entier, tant pis pour nous, on la perdra.
Oui. Et puis on peut ajouter par rapport aux autres prophètes, pourquoi Jésus n'est pas un simple prophète, c'est tout simplement parce que c'est le seul qui est né pur et sans péché. Les autres se sont purifiés, ont fait des erreurs, ouais. Ils sont tombés, ont douté. Jésus a pris la condition humaine, donc il a tout pris de nous, mais pas le péché.
Amen.
Il est pur.
Amen. Surat 19,
et sa mère
19.
Également. Ouais. Sainte Vierge Marie également.
Quoique dans le Coran, l'étude que j'ai faite, on sent, en fait, dans ce qui est dit de la Vierge Marie, sourdre l'hostilité du judaïsme à l'égard de la Vierge Marie. Parce que vous voyez, par exemple, quand elle revient chez ses parents, sa famille lui dit « Mais ton père n'était pas un homme mauvais, ta mère n'était pas une prostituée. » Quel est le sens de ces paroles adressées à la Vierge? Sinon, parce que, justement, on reconnaît qu'elle a péché. Donc, en fait, on sent sourdre, là, les propos du Talmud à la racine du récit de la conception de Jésus, malgré tout. Hein.
Finalement, c'est un mouvement gnostique. J'ai mis du temps à le comprendre, je ne savais pas trop ce que ça signifiait, mais on croit qu'on arrive tout seul à Dieu.
Oui.
Bon, il y a quand même un maître qui nous guide.
Oui.
J'avais quand même un grand respect pour mon maître soufi, qui avait aussi des qualités humaines exceptionnelles.
Voilà. Oui.
De générosité, d'accueil, de lucidité, de sensibilité. Il savait parler à chacun, mettre chacun à l'aise. Mmh. C'était quand même une personne exceptionnelle.
Oui.
Alors je me dis quand même que le Seigneur peut envoyer des grâces, pas par la religion, mais malgré leur religion. Et je crois que cet homme a quand même reçu des grâces exceptionnelles.
Mmh.
Voilà. Mais le problème, c'est qu'il est resté dans ce contexte musulman.
Et vous, quand vous êtes converti, vous n'avez pas senti que les questions que vous vous posiez, les réponses que vous aviez trouvées, l'amenaient à réfléchir?
Ben, en fait, moi, avant de me convertir, j'ai reconnu que c'était un grand maître spirituel. J'ai fait ce qui s'appelle le Baya.
D'accord.
Et puis, c'est à la suite qu'on m'a expliqué qu'on ne peut pas être soufi sans être musulman. Mais en fait, j'ai jamais été vraiment attirée par l'islam. Moi, ce qui m'attirait, c'était vraiment ce cheminement spirituel, ces exercices spirituels. Qui je me demande s'ils ne sont pas inspirés un peu des exercices de Saint Ignace d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grande influence chrétienne.
Ah, oui.
Je m'en rends compte maintenant, après avoir un petit peu plus étudié tout ça. Voilà, c'était ça qui m'attirait particulièrement.
Et donc vous disiez que ce maître spirituel, il tenait sa science, sa sagesse, de quoi finalement?
Il y aurait une transmission qui viendrait de son maître spirituel et voilà.
C'est ça.
Donc, transmission.
C'est ça. Donc c'est de maître à disciple à travers le temps qui remonte jusqu'à Mahomet.
C'est
une tradition ésotérique qu'on se transmet.
Oui.
D'accord. Et donc vous vouliez recevoir aussi cette révélation ésotérique, vous pouvez la transmettre à votre tour ou comment?
Oh ben non, moi je ne me présentais pas dans la lignée, j'étais simplement là pour faire mon travail personnel. C'est tout. J'essayais de comprendre, je me posais beaucoup de questions, j'essayais d'être une meilleure personne, tout court, finalement. De m'améliorer, de combattre mes défauts, d'être plus ouverte aux autres, de développer la charité, l'ouverture, la générosité, l'amour pour le prochain. Finalement, il m'enseignait un petit peu la charité chrétienne, sans le dire. Jésus ne se révèle pas directement, mais c'était quand même ces valeurs-là qui m'ont attirée.
Il faut bien distinguer, comme vous le disiez, ce qui est l'ordre naturel de l'ordre surnaturel.
Oui.
Et le malheur, souvent, c'est qu'on attribue le bien que font certaines gens d'ordre naturel à leur religion, en disant voilà, l'islam est une bonne religion puisque mon épicier qui est musulman était un brave homme.
Oui.
On reporte la bonté naturelle de cet homme sur l'islam, alors qu'il n'y a aucun rapport.
Et à contrario, nous qui sommes censés être une civilisation chrétienne, et ben on est de plus en plus individualiste, égoïste, éloigné de la charité chrétienne.
Nous avons la vérité et on n'y croit plus.
Oui.
Eux, ils ont le mensonge, mais ils y croient.
Donc, nous, en général, on ne donne pas un très bon exemple aussi.
Vrai, c'est vrai.
Donc, c'est peut-être le dernier point sur lequel je voulais venir.
D'accord.
Que même en retournant vers Jésus, ce n'est pas évident parce que monde est en crise et malheureusement, l'Église n'échappe pas non plus. Ne serait-ce que par le manque de prêtres qui est de plus en plus débordé, que par une certaine tendance de l'Église à vouloir tellement se conformer au monde moderne qu'on finit par un petit peu tout mélanger. Oui, il faut aimer le pécheur, mais pas le péché.
C'est ça.
Oui, on doit bénir le pécheur, mais pas le péché.
Ouais.
Bien sûr qu'on accueille les homosexuels, mais on souhaite qu'ils sortent de leur péché.
Ouais.
C'est qu'un exemple.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et bien sûr qu'on veut rencontrer les gens de toutes les religions, mais on ne va pas rentrer non plus dans un dialogue interreligieux qui nous mettrait au même niveau.
Oui, c'est ça.
C'est ça aussi. C'est ça. Il faut quand même défendre nos valeurs chrétiennes, le dogme chrétien qui est juste et qui est vrai, et accueillir le monde, mais tout en leur mettant le doigt sur ce qui ne va pas.
Ouais. Et dire que finalement nous défendons, comme vous dites, les valeurs chrétiennes, non pas parce que c'est les nôtres, ce sont les valeurs de tout le monde en fait.
Oui.
C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que le christianisme, Jésus, il est mort pour tous. Donc c'est pas, on se situe pas dans le registre d'un clan contre d'autres clans. On partage simplement ce trésor de l'universalité.
Oui, puis il y a quand même un dogme chrétien qui est là, qui ne bouge pas, parce que maintenant on est aussi dans le côté relativisme, t'as ta vérité, j'ai ma vérité, et puis ci et ça, puis finalement on s'y retrouvera.
C'est ça. Dieu est un bonbon, on sauvera tout, c'est ça.
Voilà, on regarde le 6 d'un côté, mais de l'autre ça fait un 9 et machin, puis on devient tous fous.
Ah, d'accord, j'ai pas pensé à ça, effectivement.
Mais non, il y a quand même un dogme chrétien. Il y a Jésus qui est fils de Dieu, qui est Dieu fait homme,
Amen.
Qui est venu pour nous sauver.
Amen.
Et c'est nous n'avons qu'à le suivre.
C'est merveilleux.
C'est et
merveilleux.
C'est une grâce exceptionnelle. Et maintenant, il est accessible au monde entier, finalement.
Oui. Et d'ailleurs, c'est un signe de la fin. Hein.
Oui.
Dans l'évangile, Jésus dit ça. Hein. Donc, à mon avis, on n'en est pas loin. Donc, faut être prêt.
Oui. Mais après, je reconnais que c'est pas évident, surtout pour un musulman qui déjà a toute la pression de sa communauté, mais pour une personne tout court qui se dit, qui veut essayer de rentrer à l'église, et puis, pas de chance, elle tombe sur une dame désagréable, qui lui dit qu'il veut pas pousser son sac pour la laisser s'asseoir, ou un prêtre qui est débordé, qui a pas le temps de lui parler, ou d'autres qui, justement, sont peut-être trop pris par cet esprit du monde moderne et qui va leur dire bah, restez ce que vous êtes et qui ne les élève pas vers le haut, je dirais.
Ouais.
Et puis donc il y a aussi un cheminement à faire au sein de l'Église. Il faut demander au Seigneur, à l'Esprit Saint de nous guider. Et moi j'ai la chance d'avoir quand même Padre Pio qui continue à me guider. Ouais. Et je le suis autant que je peux. Donc j'étais en Italie, tout ça. Bon, maintenant je suis en France, mais je le suis même dans sa messe. Voilà, je vais à la messe tridentine, la messe qui lui était si chère. Et ça, c'est aussi des valeurs auxquelles je tiens.
Très bien. Bon, eh bien, merci Jeanne pour cet entretien.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé.
Que Dieu vous garde et continue à vous conduire.
Et merci infiniment pour tout ce que vous faites, parce que vous m'avez beaucoup aidé dans mon cheminement. Parce que ce n'était pas si simple de quitter le soufisme comme ça, parce que justement, il y avait tout un tas de belles choses qu'on m'avait appris. C'était difficile de faire le ménage entre ce beau discours spirituel attrayant et tous ces petits points négatifs de l'islam qu'on me mettait un petit peu de côté comme ça. Vous, vous mettez quand même le doigt et vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère c'est sur les choses qui ne vont pas.
Ah oui, voilà. Ça vous a aidé vraiment ?
Oui, à transiger de façon plus directe.
Merci.
Parce qu'avant, j'étais encore un petit peu trop dans cet idéal universalisme. Finalement, c'est pas grave, on est quand même bon, on est quand même des bonnes personnes en recherche de Dieu. Ça va aller pour nous. Comme si l'intention était suffisante.
Là encore, on se sauve soi-même. Quoi.
Oui, puis
Dieu nous donne le salut, est tellement bon, de votre nom.
Voilà, c'est ça. Puis que l'enfer.
Bon, ah oui, c'est ça.
Non, il y a un vrai salut à faire là, dans cette vie.
Merci, notre Jeanne. Vivant.
Alors, merci infiniment parce que vous m'avez guidé beaucoup par tous vos messages.
Merci, Jeanne, vraiment.
Et je suis encore plus solide maintenant dans ma en tant que chrétienne. Et c'est pour ça que j'ai osé venir aujourd'hui et témoigner.
Jésus a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson, car elle est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. S'il n'y a personne pour prêcher, pour faire entendre la voix de la vérité, eh bien c'est très difficile de savoir qui est la vérité. Donc Seigneur, toi qui es là avec nous, nous te prions d'envoyer des ouvriers à ta moisson. Il n'y a rien de plus beau que de consacrer sa vie au salut des âmes, parce qu'alors c'est la vie éternelle elle-même que nous donnons lorsque nous donnons la foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et de connaître Dieu. Donc devenir des ouvriers de la moisson éternelle, quelle plus belle vie ici-bas pourrions-nous mener. Et je dis ça pour tous les jeunes gens, les jeunes filles qui peut-être sont destinées dans le plan de Dieu à devenir prêtres religieux et religieuses, afin qu'ils sachent répondre à cet appel. Et avec Jeanne, nous prions le Seigneur de vous bénir et de vous aider par sa miséricorde à entendre sa voix. Nous nous demandons, avec l'intercession de la Vierge Marie, la Mère de Dieu et la Mère de tous les chrétiens qui sont les membres du corps du Christ. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Votre bénédiction,
c'est et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Jeanne, ainsi et grande votre vie toujours plus sainte, plus féconde, pour sa gloire, pour votre joie éternelle et le salut de beaucoup d'âmes. Et c'est que vous, chers frères et sœurs et spectateurs, que ça vous bénisse, vous qui êtes Père, Fils et Merci, Jeanne.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Nous devons prier pour tous les prêtres également. Ah, c'est grâce à vous que le Seigneur.